Les cours du Collège de France, Peter Sloterdijk, Cher, l'invention de l'Europe par les langues et les cultures.
Mesdames les ministres, chère Roselyne Bachelot, chère Christine Albanel, monsieur l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en France, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, cher Antoine Trier, monsieur le secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des inscriptions aux belles-lettres, cher Michel Zinck, mesdames, messieurs les membres de l'Institut, chers consoeurs, chers confrères, Madame la secrétaire générale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, chère Anne-Marie Descôtes, Monsieur le délégué général à la langue française et aux langues de France, cher Paul, Madame la présidente directrice du Louvre, chère Laurence Descartes, Madame la présidente de la Cité internationale de la langue française, chère Marie Lavandier, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs en vos titres et en fonctions, chers collègues, Mesdames, Messieurs, cher Peter Sloterdijk. Monsieur Sloterdijk, ça fait partie du rituel français. Nous sommes à quelques mois des élections européennes et les inquiétudes sont grandes. On s'attend à un taux d'abstention record et à une montée sans précédent depuis la création de la communauté européenne des partis d'extrême droite dont le but est de défaire l'Europe et de revenir au nationalisme. La réflexion sur l'Europe, son identité et sa diversité est plus que jamais d'actualité et c'est justement le but de la chaire annuelle « L'invention de l'Europe par les langues et les cultures » créée en partenariat avec le ministère de la Culture et notamment avec l'appui de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Cette chaire porte sur les enjeux contemporains de la création intellectuelle et artistique au sein d'ensembles dont l'évolution et l'identité ont été, tout au long de son histoire, profondément marquées par la pluralité des formes d'expression et la diversité des patrimoines. Car l'Europe s'invente aujourd'hui, mais trop souvent à l'insu de ses institutions comme de ses propres citoyens. Les enjeux européens sollicitent, à juste titre et de toutes parts, le débat public ainsi que le détour par la façon dont les créateurs et les penseurs d'aujourd'hui vivent et approfondissent l'expérience européenne en prenant en compte dans leur travail cette histoire plurielle et cette diversité linguistique, artistique et culturelle. Le détour parce qu'ils pensent et exprime de l'Europe. Je voudrais sincèrement remercier Madame la ministre Roselyne Bachelot, qui, avec Paul de Sinetti, est à l'origine de ce partenariat. Je voudrais aussi remercier la ministre actuelle de la Culture, qui a accepté que cette chaire soit prolongée pour une durée de 3 ans. Il et elle montrent par leur présence l'attachement à cette chaire qui a entièrement sa place au Collège de France, qui, depuis sa création dans un contexte d'humanisme, a toujours eu la vocation d'être aussi un collège d'Europe. Peut-il avoir une identité politique commune pour les habitants de l'Europe et de l'Union européenne qui sont majoritairement socialisés dans leur identité nationale et qui ont encore toujours du mal à se considérer comme européennes et européens? Et quel est l'avenir de la refondation mythologique, démographique et politique de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale? Le penseur qui est le plus à même de nous aider à repenser l'Europe est sans aucun doute Peter Sloterdijk, et je suis très heureux qu'il a pu accepter notre invitation de rejoindre le Collège de France pour cette année. Peter Sloterdijk a été qualifié par Hans-Ulrich Gumbrecht comme étant, je le cite, « le plus joyeux des philosophes ». Je trouve que c'est un magnifique compliment. Il a fait ses études de philosophie, histoire et philologie allemande aux universités de Munich et de Hambourg. Pendant ses études, il rédige plusieurs essais, entre autres sur la théorie structurelle de l'histoire de Michel Foucault. En 1976, il obtient son doctorat sur le thème théorie des genres et histoire des genres de l'autobiographie et de la République de Weimar. Après un séjour dans un ashram en Inde, qu'il considère, si votre page Wikipédia dit vrai, comme une expérience décisive dans sa vie, il travaille comme écrivain indépendant. En 1983, il publie son premier essai philosophique, « Critique de la raison cynique », qui est un des livres philosophiques les plus vendus au XXe siècle. De 1992 à 2017, il a occupé la chaire de philosophie et d'esthétique à la Staatliche Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe et en même temps, il enseigne à l'Institut de philosophie de la culture à l'Académie des beaux-arts de Vienne. De 2001 à 2015, il a été d'ailleurs recteur à la Staatliche Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe. Il a enseigné à beaucoup d'endroits. Je cite le Bard College dans l'État de New York, au Collège international de philosophie à Paris, à l'École polytechnique fédérale de Zurich et également sur la chaire Emmanuel Levinas à Strasbourg. Il est en 2007 nommé membre de l'Académie des arts de Berlin dans la section littérature. Ses intérêts philosophiques sont multiples. Il touche les religions, la Bible. On vient d'avoir une discussion sur les couleurs dans la Bible, mais ça, c'est pour une autre fois. Notamment sur le rôle des monothéismes, la déontologie scientifique, l'identité et bien sûr l'Europe. Si je voulais énumérer toutes ces publications, il n'aura plus le temps de parler. Donc, je vais citer seulement quelques volumes qui ont été traduits en français. D'abord, la trilogie Sphère, dont les trois volumes ont paru en allemand entre 1998 et 2004, Le palais du cristal, à l'intérieur du capitalisme planétaire, 2005, Colère et temps, qui a reçu en 2008 le prix européen de l'essai Charles Veillon, La folie de Dieu, du combat des trois monothéismes, 2007, Après nous le déluge, les temps modernes comme expérience antigénéalogique, en 2016, Faire parler le ciel de la théopoésie 2021 et tout récemment le remords de Prométhée du don du feu à la destruction mondiale par le feu 2023. Ces distinctions, c'est la même chose, je ne vais pas tous les énumérer, innombrables. Il y a plusieurs doctorats honoris causa aux Pays-Bas, en Italie, en Roumanie. Il est commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, récipiendaire de plusieurs prix, le prix Curtius, prix Sigmund Freud pour la prose scientifique, le prix Ludwig Börner, récemment le Europa Prize de la Fondation Hans Ringier. Son style provocateur et sa capacité à remettre en question les conventions philosophiques traditionnelles font de lui une figure importante dans le paysage intellectuel contemporain, suscitant débats et réflexions profondes sur les défis de la condition humaine. Cher Peter Sloterdijk, nous sommes très heureux de pouvoir entendre maintenant votre leçon inaugurale intitulée « Le continent sans qualité, des marque-pages dans le livre L'Europe » et je suis heureux de vous donner la parole.
Merci. Merci infiniment, Monsieur Remer. Merci à toutes et à tous qui se sont rassemblés aujourd'hui. D'abord, je voudrais vous remercier très, très cordialement pour l'honneur que vous m'avez rendu en m'invitant sur cette nouvelle chaire. En plus, je voudrais saluer mon traducteur, qui est, pour ainsi dire, co-responsable de ce qui se passera dans l'heure qui vient. Nous formons ce qu'on peut appeler un vieux couple. Nous coopérons depuis un quart de siècle pour minimiser les dégâts produits nécessairement par la traduction. Mais en même temps, on fait un effort pour rajouter la splendeur de l'autre langage à ce que l'auteur a compilé avec ses pauvres facultés. Dans l'heure qui vient, je vais parler de l'Europe à partir d'une perspective pas encore très concrète. Il nous reste 8 soirées pour approfondir le sujet. Suivez-moi, peut-être, si vous voulez, sur un vol d'oiseau sur le terrain européen. Et pour ce faire, il est inévitable de parler d'abord de l'Europe comme excuse, de l'Europe des échappatoires, de l'Europe des nécrologies et des préludes. De tous les reproches adressés dans une période récente à cette étrange entité politique appelée Europe et à ses habitants, reproches qui formeraient une longue litanie si l'on voulait en entendre l'entièreté, le plus clément pourrait être celui qu'elle frappe par l'impossibilité qu'il y a à la joindre, à supposer que l'idée vienne à quelqu'un de vouloir passer un coup de téléphone là-bas. On a attribué au politologue blanchi sous le harnais, qu'était Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État des États-Unis, décédé en novembre de l'an passé, le bon mot suivant. Quand ils voulaient avoir l'Europe au bout du fil, ils ne savaient pas qui ils devaient appeler. Hein? L'histoire est trop bien inventée pour qu'on ne la raconte pas de bon cœur, et sans tenir compte du fait que Kissinger ne se souvenait pas d'avoir jamais dit quelque chose de ce genre. Il pensait que l'auteur de cette plaisanterie était un collègue irlandais, ce qui, compte tenu de la situation un peu marginale de Dublin, ne paraît pas dénué de toute plausibilité. Kissinger, quant à lui, ne s'est jamais défendu contre la paternité qu'on lui attribuait pour ce trait d'esprit, parce que c'était, à son avis tout de même, une bonne histoire. Ce blâme discret, adressé au retranchement de l'Europe dans une éminente faiblesse concernant son adresse, faiblesse que l'on pourrait presque interpréter comme une sclérose, émergea de nouveau en automne de l'année 2012, lorsque le comité d'Oslo attribua le prix Nobel de la paix à l'Union européenne. On louait l'Union pour avoir assuré la paix et la prospérité pendant plus de 6 décennies, y compris entre les nations qui s'étaient jadis mutuellement considérées comme des ennemis héréditaires. Et l'éloge dissimulait un étonnement feutré face à la constatation que des États modernes peuvent exister côte à côte sans abattre les uns sur les autres au moins une fois par génération, comme c'était le cas au temps historique. Manifestement, on ne put se mettre d'accord dans la capitale norvégienne sur l'adresse précise où l'on pourrait transmettre directement la bonne nouvelle, peut-être au Parlement européen. Dans ce cas, l'Allemand Martin Schulz aurait été le destinataire légitime de cet appel. On pouvait aussi tenter sa chance auprès de la Commission européenne, représentée par le Portugais José Manuel Barroso, ou encore éventuellement au Conseil européen. C'est alors le téléphone du Belge Herman Van Rompuy qui aurait dû sonner. À Oslo, on préféra n'informer personne, sous prétexte qu'on ne voulait pas que l'affaire fuite par prématurément. On se fiait à la certitude que l'Union européenne, même si elle n'avait pas les moyens de s'offrir un téléphone pour des appels surprises, apprendrait à temps utile l'honneur qui lui était rendu, que ce soit dans le journal ou aux informations télévisées du soir. Et si la possibilité de joindre l'Europe est déjà quelque peu instable, c'est le moins qu'on puisse dire qu'on veut s'adresser à ses plus hautes instances politiques. On sera encore moins étonné que les tentatives d'entrer en contact avec elle au niveau de son peuple, en quelque sorte à sa base sociale, paraissant pour le moment peu prometteuse. Un peuple en tant qu'entité globale ou une population, qu'elle soit européenne ou non européenne, ne se prête pas par nature à être contactée à une adresse postale ou téléphonique exacte. On pourrait, pour se sortir d'affaire, se mettre d'accord sur un procédé statistique ou aléatoire qui permettrait d'avoir au téléphone la population de cette région du monde incarnée par un représentant typique. Imaginons que l'on parvienne à isoler une personne qui serait en mesure de s'exprimer en tant que vox populi pour la foule de ses semblables. Et cet individu serait en droit d'assumer ce rôle s'il unissait en lui toutes les caractéristiques que font l'Européen moyen de l'année 2024, tel que l'aurait conçu Alphonse Quetelet, le maître penseur belge des valeurs moyennes, si on le, comme la version régionale typique de l'homme moyen, pour autant qu'on lui aurait confié la mission. Un individu n'est pas moyen quand il plonge dans les abysses de l'absence de qualité, comme le héros du roman de Musil. Pour être transfiguré en homme moyen, il doit en lui rassembler dans sa personne les qualités adéquates sur le plan local et global, sur le mode de la discrétion bien tempérée. Chez l'Européen moyen, rien ne dépasse. Des oreilles au point de vue et aux passions, chez lui, tout est arrondi à la valeur médiane. La figure recherchée devrait donc incarner l'Européen rajusté à la moyenne, dont on lit dans les almanachs statistiques qu'il consomme chaque année 11 kilos d'alcool pur, 6 kilos d'œufs de saucisse à bouillir, 900 grammes de miel, qu'il a une vie active de 35,9 années, qu'il met au monde entre 0,75 et 0,425 descendants, dont un dixième sont aujourd'hui conçus dans les lits IKEA, et qu'il parcourt chaque année 12 000 km, produit 7 tonnes de CO2 et consacre 13% de son budget à ses frais de mobilité. Il suffirait de dénicher un générateur aléatoire nourri de toutes les adresses répondant à ces critères auxquels on pourrait confier la mission de dénicher l'Européen moyen sans colère, sans favoritisme et sans sel excessif. Et le mieux serait de choisir pour cet appel un moment neutre de la journée afin de ne pas discriminer les personnes ayant tendance à faire une arrivée tardive dans le monde éveillé, et même les citoyens dont le rythme est marqué par la culture sud-européenne de la sieste ne devraient pas être désavantagés a priori. On lance l'expérience. La bille électrique roule, elle fournit, impartiale et impersonnelle, une unique adresse sur le pool de 450 millions de candidats à l'inténiabilité virtuelle. Et voilà qu'un récepteur sonne quelque part dans l'eurosphère. L'usager décroche et, ce qui ne surprend personne, il pose la question la plus probable qui est à l'appareil, de quoi s'agit-il ? On lui explique que l'appel provient d'un bureau situé à l'extérieur de l'Europe, qu'on aimerait parler à un véritable Européen, un citoyen normal venant de la base de cette région du monde, dans une certaine mesure représentatif de ses semblables, mais en aucune manière à titre officiel. Qu'on aimerait bien entendre une voix ici du peuple de ce continent, qu'on appelle le vieux monde depuis l'époque de Christophe Colomb, un individu avec lequel on pourrait s'entendre comme avec un représentant du milieu local, sans gêne, au meilleur sens de l'expression, ni arrière-pensée. Et on aimerait d'abord savoir, naturellement, qui est celui qu'on a eu la chance d'atteindre. Accordons à l'appeler quelques secondes de réflexion pour décider s'il raccroche ou s'il reste en ligne. Et au cours de ces quelques instants, c'est ce que nous voulons suggérer, une faille s'ouvre à l'intérieur de l'espace mémoriel de la vieille Europe, des souvenirs cachés remontent. L'Européen moyen pressent que ceux qui veulent l'extraire d'une manière aussi soudaine et inattendue de la foule de ses semblables n'ont aucune bonne intention à son égard. Il lui semble tout à coup percevoir des bruits sourds en provenance d'une caverne lointaine et obscure. Instinctivement, il comprend. Celui qui appelle si soudainement pour t'interroger sur ton identité veut à coup sûr te tendre un piège. Si l'on te demande, c'est pour disposer d'une personne à quoi l'on puisse adresser des reproches. On te contacte afin de disposer d'une adresse à laquelle on puisse envoyer des accusations. Mais pourquoi ? Que pourrait-on nous reprocher à nous autres ? De quoi pourrait-on nous accuser ? Nous l'admettons là-bas, au loin, sur une île grouillante de dangers. Nous avons jadis enivré un géant à un seul œil. Mais nous aidions dans notre bon droit en l'aveuglant. Nous ne voulions pas périr dans sa caverne comme quelques-uns de nos compagnons. Il est vrai que si l'heure était aux aveux, nous aurions, nous aussi, à avouer quelques crimes assez sérieux commis lors de nos périples autour du monde, mais il ne peut pas en être question pour le moment. Alors, comment l'Européen moyen doit-il se tirer d'affaire ? Peut-être dispose-t-il encore d'une mémoire homérique suffisante pour trouver l'échappatoire salvatrice. Il pourrait répondre comme Ulysse : « Personne est mon nom. Je m'appelle Utis. Je ne suis nul autre que personne. » Et c'est ainsi que m'appelaient mon père, ma mère et tous mes compagnons. Le plus ancien marque-page dans le livre de l'Europe, dont on feuilletera ici quelques chapitres, fournit un indice sur la première échappatoire qu'est utilisée ce qu'on appelle un Européen pour sauver sa propre tête après le heurte avec la civilisation des cyclopes. En échappant à la vengeance de Polyphème et de ses alliés grâce à une feinte liée à son nom, il donne un exemple inoubliable de la manière dont, dans l'Europe des premiers temps, comparable en cela au modèle chinois, la ruse, la métisse, la mécanée entra sur scène comme un prélude à la raison discursive et comme son accompagnatrice permanente. Et si l'on considère d'un point de vue actuel la situation de l'Europe au sens large, l'impression s'impose que les habitants du demi-continent emploient de nouveau, depuis un certain temps, la ruse d'Ulysse pour se retirer dans la position de personne. Après la séquence d'événements qu'ils ont déclenchés et auxquels on donne le nom d'histoire du monde. Cette fois, cependant, l'alliance des Polyphèmes ne veut pas se laisser abuser à nouveau. Et même si les navires des Européens se sont réfugiés dans leurs propres eaux, leurs poursuivants les traquent jusque chez eux. Et plus encore, les assaillants qui éprouvent une certaine rancune envers l'ancien monde, les humiliés et les offensés de l'époque de l'hégémonie occidentale, ils recrutent leur descendance directement parmi les habitants du pays de personne lui-même et parmi leurs partenaires américains. Et tandis que les Européens moyens de Lisbonne à Stettin s'abandonnent de plus en plus à la personnification, au devenir personne, leurs ennemis, de Pékin à Ankara, de Moscou à Téhéran, de Bagdad à Harare, constitue une internationale polyphémique. Et ce serait du reste atténuer la gravité de la situation européenne que de vouloir ni souligner que la fuite dans l'échappatoire. Pour parler en termes psychologiques, l'esquive qui permet de passer du malaise à la désidentification. La chute de l'Europe après son retrait du centre politique du monde est largement plus grave. Beaucoup d'Européens ont cessé de s'intéresser à eux-mêmes. Ils balaient le sujet d'un revers de main quand on parle de former un nouveau projet à partir des restes du vieux continent. S'ils le pouvaient, ils échangeraient eux-mêmes contre n'importe qui d'autre. Peut-être comme Giorgio Agamben avait en tête de remplacer le citoyen par la figure du réfugié. Et l'on ferait preuve de légèreté d'esprit en expliquant de tels propos par le seul extrémisme coquet qui a attiré l'attention dans le dernier tiers du XXe siècle en profitant de l'intérêt ravivé pour les questions de théologie politique. On comprend que le subtil mépris de l'Europe qu'on relève dans les phrases d'Agamben puise dans un mépris dont l'origine est plus ancienne. Dans l'Antiquité tardive, partant des marges orientales du monde méditerranéen, il avait pénétré la sphère de l'orthodoxie chrétienne. Et allant croire, le monde dans son ensemble était un lieu qui ne reconnaîtrait aucun habitant doté de droits supérieurs à rester sur place. Il pourrait, à la rigueur, proposer le nécessaire pour héberger des personnes en transit. Dès lors, on ne devrait pas y traiter les nouveaux-nés autrement que comme des immigrés clandestins, même si les uns font le voyage par divers itinéraires méditerranéens, tandis que les autres empruntent le portail maternel notoire. Les expressions de cette tendance n'ont pas attendu les années 1990 pour circuler. On avait déjà entendu des tonalités analogues au cours des décennies précédentes. Dans le concert des rejets de la civilisation occidentale exprimés des deux côtés de l'Atlantique, on est toujours frappé par la sentence de la jeune Susan Sontag, publié dans le numéro d'hiver 1967 du Partisan Review. La race blanche est le cancer de l'humanité. Ce qui était exprimé et inscrit là s'éleva rapidement au rang de leitmotiv de l'autonégation occidentale. Et ce qui était imprimé ici et mis en circulation, c'était le dogme tiré de l'esprit de la gnose new-yorkaise que l'on n'aurait pas pu mieux formuler au Quartier Latin. Et le très frivole de Susan Sontag a fait le tour du monde et s'est fixé surtout dans ce qu'appelle le Sud global pour devenir un axiome stable de la leucophobie, la haine contre la couleur blanche. Il sert aussi indirectement de nom de code pour les pulsions judéophobes, parce qu'en règle générale, on classait les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, y compris les Rachel, les Ruth et Myriam, dans le pool génétique des personnes à peau blanche, sans tenir compte du fait remarquable sur le plan philologique et phénoménologique que la Genèse biblique n'évoque aucune couleur. Donc, l'europhobie endémique en Europe, parfois réduite au scepticisme à l'égard de ce qui était notre propre au continent, n'avait pas eu à attendre l'appui des intellectuels de la côte est américaine. C'était pas seulement le spectre du communisme qui hantait le vieux monde depuis le milieu du XIXe siècle. Un autre spectre, encore plus inquiétant, errait dans cette région du monde. On lui avait donné le nom de décadence. Et il aimait à se présenter sous des atours nationaux, comme dans le cas de Maurice Barrès, auquel la dénatalité de son pays causait autant de soucis que l'affaiblissement progressif du lien social. Et le spectre se montra plus encore sous les traits d'une entité supranationale. Au-delà des frontières ethniques, une vague crainte de la décadence s'articula sous forme d'une déchéance prétendue visible des peuples identifiés à des races, un processus que l'on attribuait le plus souvent à des métissages nocifs. L'inquiétude, simulée par des théorèmes grotesques, que l'on exprimait à propos de la substance menacée, se précipita dans des sinistres spéculations sur la propagation irrésistible des maladies sexuellement transmissibles, des affections pulmonaires, des neurasthénies et des rébellions des manifestations de la rébellion féminine, dont l'hystérie, beaucoup commentée à l'époque, n'était qu'une éclaireuse. Un vague soupçon de faiblesse lié à l'âge se diffusa sur le continent et n'épargna pas les îles britanniques. Et cet accord fin de siècle entre le dégoût rampant de la vie et la bravoure technique se fit entendre partout. En lui s'animait quelque chose de ce que Nietzsche avait appelé la nouvelle musique pour de nouvelles oreilles. La tour Eiffel se dressa au-dessus de la capitale étonnée des Français, commandée ponctuellement pour le centenaire de la Révolution française en 1889, comme si elle devait prononcer le dernier mot de l'Europe pour ce qui concernait sa volonté et sa capacité constructive. Mais dans les romans de l'époque, par exemple chez Joris Karl Huysmans, dont À rebours avait paru peu avant, on faisait la connaissance d'hommes trop raffinés pour résister à un trajet entre leur domicile et la gare. Et on s'offrait des colonies et des migraines en pressentant que les unes comme les autres déboucheraient tôt ou tard sur des situations qu'on ne pourrait qualifier autrement que d'intenables. L'historien des idées Michel Vinocq a décrit en détail les serres des épuisements nationaux en France avant le passage au XXe siècle, y compris les tentations érotiques du romantisme noir. C'était les décennies apparemment heureuses où comprendre l'Europe signifiait comprendre la France. Et pourtant, le grand Ernest Renan n'avait-il pas déjà donné aux alentours de 1880 ce conseil à un jeune fauteur de troubles, répondant au nom de Paul Déroulède, « La France se meurt, jeune homme, ne troublez pas son agonie ». Et jusqu'en 1914, les Européens arboraient ce qu'ils avaient d'intenable comme un motif de fierté. Et au plus tard, avec la libération de Paris en août 1944, ils avaient consommé leurs réserves de faiblesse et d'arrogance. Et pourtant, on ne manque pas jusqu'à ce jour de retardataires qui se complaisent à répéter les sombres diagnostics de 1918 comme s'il s'agissait de nouvelles fraîches. Le premier tome du déclin de l'Occident de Schwarzschild avait paru cette année-là. Et cela dit, du point de vue de l'auteur, le livre aurait tout aussi bien pu s'intituler « Le parachèvement de l'Occident ». Et ces derniers temps, toute une série d'auteurs, pas nécessairement de premier ordre, de Jean-Marie Benoît ou Henrik M. Broder jusqu'à Douglas Murray, se pose en orateur devant la tombe ouverte de l'Europe, alors que certains la qualifient, la défunte, de suicidaire. Et on ignore si c'était pour exprimer des reproches ou des regrets. Et le romancier Michel Houellebecq a reçu en octobre 2018 le prix de la société Oswald Spengler, dont le siège se trouve à Limbourg, en Belgique, peut-être pour rendre hommage aux propos qu'il avait tenus en 1998, selon lesquels l'Occident était en train de disparaître, mais que sa disparition devait être considérée plutôt comme une bonne chose. Ce qui montre accessoirement comment, en France, en Belgique et dans quelques cercles allemands passéistes, le déclinisme continue à nourrir son homme. Et que Michel Onfray ait pu dire en février 2016 que notre civilisation était morte n'étonne pas réellement. Cependant, il y a une entre une déclaration de décès prononcée en présence de la presse et des camarades de télévision et l'établissement d'un certificat de décès par du personnel ayant l'expérience de la morgue, une différence que l'on ne devrait pas totalement négliger existe. Résumons-nous ce que nous appelons ici Europe, pour des raisons de simplification pratique, constitue une entité tout à fait complexe et composée de multiples éléments dotés d'une certaine profondeur temporelle. Et en fonction du tempérament et de l'école, on l'a fait débuter avec la victoire des Grecs au cours des guerres médiques, ou avec le couronnement de Charlemagne, ou avec la sortie des navigateurs ibériques au large de l'Atlantique et la découverte fatidique de ses autres côtes. Le porte-parole de cette entité politico-civilisationnelle se font remarquer depuis un moment, comme nous le venons de le relever, par des échappatoires concernant leur identité. Ils frappent aussi en publiant des nécrologies et des considérations baignant dans l'humeur de la prélude. Mieux, depuis un certain temps, on peut intégrer cette caractéristique, ce caractère de la prélude, dans sa définition de la chose elle-même. On peut le dire, et c'est pratiquement une définition, l'Europe, que nous reconnaissons immédiatement dès qu'il en est question, est née du moment où elle a commencé à se déplaire. Et comme c'était inévitable, le regard se retourne ici vers les lignes vibrantes d'indignation avec lesquelles l'Irlandais Edmund Burke, fondateur du conservatisme moderne, commenta à l'automne 1793 l'exécution de la reine de France. Comment aurait-il pu présenter son constat autrement que sur le ton épilogique, mêlé de mépris à l'égard de tout ce qui était annoncé dans une terreur propulsée par la morale, et pour s'achever un peu plus tard dans la banalité bourgeoise. Edmund Burke, l'âge de la chevalerie a disparu. Celle des sophistes, des économistes et des calculateurs lui a succédé. Et la gloire de l'Europe s'est éteinte à jamais. The age of chivalry has gone, that of sophists, economists and calculators has succeeded. Les auteurs d'éloges funèbres n'ont jamais été en manque de termes dramatiques. Pas plus que les diagnostics érudits sur les longues maladies du vieux monde. Et certaines des constatations de Nietzsche sont restées actuelles, même si le ton néo-aristocratique forcé de ses jugements sur les débuts de la culture de masse pourrait être devenu étranger au lecteur actuel. Mais ces points de vue sur l'esprit du temps qui prenait forme après 1850, paraissent toujours clairvoyants. Dans les systèmes positivistes de ces années-là, Keats a été présenté par des Français comme Auguste Comte ou des Anglais comme John Stuart Mill ou Herbert Spencer. On sent pourtant, selon le psychologue de la civilisation qui vivait sur les hauteurs de Sils Maria, à 6000 pieds au-delà de la réforme des rentes et de la question des sociales, la recherche à laquelle se livrent des sujets instables pour trouver d'ultimes points d'accroche dans la sphère de l'affectif, animé par ce qui relève de la lassitude, du fatalisme, de la désillusion, de la crainte d'une désillusion nouvelle, accompagnant de traits exposés ostensiblement comme du ressentiment, de la mauvaise humeur, d'un anarchisme d'exaspération, et tous les autres symptômes ou mascarades du sentiment de faiblesse. Et de là, son bon mot, l'homme n'aspire pas au bonheur, cela il n'y a que l'anglais pour le faire. Et dans les zones plus sombres du point de vue psychodynamique, on trouve le constat général établi dans par-delà et le bien et le mal sur le mode d'être contemporain. L'homme d'une époque de dissolution qui mélange toutes les races, l'homme mêlé européen, l'homme qui recèle dans son corps l'héritage d'une ascendance composite, cet homme des civilisations tardives et de la clarté déclinante sera en gros un individu plutôt débile. Son vœu le plus profond sera de mettre fin une bonne fois à la guerre qu'il est lui-même. Son bonheur lui apparaîtra comme un repos, son état de satiété que rien ne réchange, une réconciliation définitive comme le sabbat des sabbats du saint rhéteur Augustin qui fut lui-même un homme de ce genre. On voit apparaître dans ces phrases le contour de l'Européen d'après-guerre, celui de l'époque comme celui du futur, en sachant que le mot « après-guerre », « Nachkrieg », « post-war », etc., ne désigne pas seulement ici l'European way of life tel qu'il s'est réalisé après 1945 et a été honoré par le prix Nobel de 2012. Il signifie le désarmement intérieur d'hommes qui ne veulent plus exister eux-mêmes comme des théâtres des luttes de principes. Un désarmement qui a commencé il y a longtemps, certainement peu après la bataille de Waterloo. Ils se contentent plutôt d'être à la fois bons et inoffensifs à l'avenir et pour tous les temps. Et en pointant ainsi de doigt démonstratif, Nietzsche dessinait ses contemporains affectés par une lassitude non compensée de la guerre. Ecce homo europaeus. Son profil était nettement dessiné bien avant qu'il n'apparaisse massivement dans la seconde moitié du XXe siècle. Et ce que l'homme européen représentait en unité de mesure de Quetelet réclame avant tout pour lui-même, c'est de prendre ses congés à l'égard de tout ce qui fut un jour sa propre grande histoire. Rien ne lui semble plus nécessaire que d'établir la plus grande distance possible entre lui-même et les tumultes de son passé. L'époque qu'on a qualifiée de post-histoire a été mise en débat par des auteurs dotés d'une haute sensibilité européenne comme Arnold Gehlen, Wilhelm Fluss, François Lyotard, pour aller au-devant des besoins cognitifs d'une population composée d'êtres fatigués par le monde et par eux-mêmes. Il semblait que la maxime désormais en vigueur devrait être « on a raison d'être fatigué ». Gehlen, pour ne pas citer qu'un seul des auteurs, avez-vous voulu reconnaître dans la post-histoire rien de moins qu'une ère de la cristallisation? Son contenu consistait, selon lui, dans les variations, hautes en couleur, des résultats invariables et dans la remise en scène permanente de tempêtes dont le déroulement ne demandait pas plus que des verres d'eau et des parlements. Et la grande histoire avait existé pour des gens qui acceptaient être appelés au rôle de héros. La post-histoire célèbre ses longs adieux avec les héros. On a défini cette époque en utilisant une tournure digne de Wikipédia comme la sortie de l'histoire du monde en direction des vacances. Elle est du reste devenue cette forme de vie, elle est devenue sous l'intitulé de vie privée, le produit d'exportation européen ayant connu le plus grand succès. On la consomme avec ardeur dans toutes les parties du monde. Et contribue à sa propagation le fait que partout, comme le constatait, il existe toujours une nouvelle génération qui se sent à l'opposé pas seulement à l'opposé de toutes les situations qui viennent de rétrograder vers le monde d'hier, mais à l'opposé de n'importe quel passé. Et dès lors, l'Europe ne serait qu'un produit de la Verharmlosung, où sont réussis un mot allemand dont le sens et la sonorité ne sont que imparfaitement rendus par des expressions françaises et britanniques comme banalisation, minimalisation, trivialisation. Il serait injuste de reprocher aux Européens de notre temps de ne plus avoir des grands objectifs. Leur ambition, qui ne s'est pas éteinte, est de faire en sorte que la différence entre politique et administration, entre démocratie et système d'assurance se réduisent à l'avenir de décennie en décennie, comme on l'avait vécu et comme Granossa l'a salué à partir des années 50 et jusqu'à l'implosion du bloc de l'Est autour de l'an 1990. Après le 11 septembre 2001, des obstacles inattendus ont contrecarré les ambitions sécuritaires croissantes des Européens. Il n'est pas nécessaire de les commenter ici en détail. Il nous est toujours pas facile d'expliquer où nous en sommes avec nous-mêmes et le reste du monde. Et la superbe formule « reste du monde » paraît anachronique dans la bouche d'Européens de notre temps. Il flotte encore aussi un peu d'amertume. On ne peut se défaire de l'impression que le monde se produit depuis longtemps ailleurs, tandis que nous-mêmes, nous nous retrouvons dans le reste. Dans son essai « L'autre cap », écrit peu après la chute du mur de Berlin à l'occasion d'un congrès à Turin, Jacques Derrida se consacre au souci de savoir si une nouvelle monstruosité ne pouvait pas naître du caractère de restant qui s'attachait à l'Europe, qu'on l'appelle décentrage ou provincialization. Pendant un moment, il a paru plausible de se demander si l'Ouest, dans son ensemble, n'allait pas voir pousser sur son corps de nouvelles têtes de dragon après l'effondrement de l'Union soviétique. Tout se passait comme si nous entendions une exhortation à nous garder des pensées qui s'agitaient presque inéluctablement dans nos esprits après que le colosse de l'Est européen était tombé de ses pieds d'argile. Il pouvait y avoir des pensées de dragon tapis en arrière-plan, attendant la première occasion de faire le retour. Et pour que l'Europe du futur soit comprise correctement, il faut la penser comme avec une tête coupée. Et le corps de dragon de jadis, composé d'une douzaine de pays mères, comme on les appelait, et de leur extension coloniale, ce composite monstrueux que nous avons cru mort au plus tard à partir de l'année africaine, que fut l'année 1960, ou à la rigueur de la signature des accords d'Évian, qui marquèrent la fin de la guerre d'Algérie en mars 1962. Ce composite, donc, devrait être enterré et rester scellé sous une plaque massive, et que le demi-cadavre de la Russie impériale ait été secoué par des convulsions du réveil, après s'être fait passer pour mort pendant 69 ans sous l'enveloppe soviétique, cela devrait tout aussi peu nous induire en erreur, en dépit de la satisfaction que nous procure la marche des choses, que le triomphalisme des libéraux américains, lesquels voyaient d'un coup, seul coup, se dégager la voie menant à la domination unique des États-Unis sur le monde. Les idées qui devaient germer sur la tête coupée d'une Europe qui avait cessé d'être monstrueuse seraient contraintes de puiser leur force à d'autres sources qu'à celles de la première époque des navigateurs et de leur programme d'extension. Il est indéniable qu'à l'ère de la mondialisation nautique, on avait fait preuve d'un trop grand sans-gêne en allant fouiller dans les motifs chrétiens et les fantasmes des civilisations afin de revendiquer pour les ambitions des États européens les meilleures places sous les soleils d'Amérique, d'Asie et d'Afrique. Et la papauté elle-même, incarnée dans sa corruption exemplaire par Alexandre VI de la dynastie des Borgia espagnols, avait béni avec le traité de Tordesillas au cours de l'été 1494 la répartition du monde entre les découvreurs pilleurs du Portugal et de la Castille. Mais les conséquences de cette division se sont consolidées depuis longtemps. Et depuis l'époque de Simón Bolívar, l'Amérique du Sud, qu'on appelle souvent latine, cherche un modus vivendi au-delà de la colonialité, bien que son libertador, sous le coup de 1989 et dans le sillage des opérations de Napoléon, ait agi en respectant pleinement les catégories de l'Europe contemporaine. Pour ce qui concerne l'Europe réduite à elle-même aux dimensions d'un continent sans colonie, personne n'ira affirmer que les sources alternatives ont actuellement un débit remarquable. On peut également expliquer pourquoi leur flot ne se tarira pas nécessairement. En quelques décennies, la tête coupée s'est rattachée d'en haut et sans énergie spécifique venue d'en bas à un corps complexe mais qui n'est plus monstrueux, composé de 27 organes, et on cherche encore les noms et les concepts permettant de dessiner cette non-chose dont il n'existe pas de modèle dans l'histoire des grands corps politiques. Et les méditations auxquelles Derrida se livre en 1990, sous le coup de ce qui est arrivé de neuf à l'Est, se lisent aujourd'hui comme un chef-d'œuvre d'imprécision, lequel tentait de présenter les conditionnels et ses impératifs sinueux comme les garants de la circonspection et de la prudence que commandait l'histoire. Derrida comptait au nombre des penseurs qui semblaient croire sérieusement que d'une parole sortie précipitamment de la bouche d'un philosophe pourrait découler par le détour de multiplication idéologique de nouvelles grandes guerres. Il choisit le ton d'un conseiller en sécurité, travaillant pour un fantôme qui hésitait à viser sa propre incarnation. Au bon sens comme au mauvais, ses explications méandreuses et ses jeux un peu creux avec les mots cap, capital, capital ont la valeur d'un témoignage sur les embarras de cette région sortie comme une grandeur brisée de la séquence composée par la double guerre de 1914 à 1945. Derrida posait cette question rhétorique. L'Europe a-t-elle jamais existé? Mais nous sommes de ces jeunes gens qui se lèvent dès l'aube, vieux et fatigués. Nous sommes déjà épuisé. Nous vivrions dès lors dans une partie du monde fortement compromise, dans laquelle toute tentative de recommencement se verrait opposer les charges d'une histoire trop lourde. Et dans une telle situation, celui qui se consacre à la mission de repenser l'Europe doit savoir qu'il s'agira de former des concepts pour une nouveauté politique et culturelle dont l'existence est placée sous des présages encore largement inconnus, des concepts pour un continent sans qualité. Habité par un demi-milliard de personnes, refuge convoité pour d'innombrables migrants potentiels, Ils cherchent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale une nouvelle définition pour lui-même et pour les peuples. Et il a réussi, sous la forme de l'Union européenne, une improvisation politique qui n'était pas prévue dans les scénarios de l'histoire du monde. Il a créé un grand corps politique qui, en dépit de ses amples dimensions, ne présentait ni les convictions, ni la posture d'un empire. Ces capitales peuvent présenter tous les avantages possibles d'une vie urbaine, mais pas le rayonnement qui émanait jadis des métropoles de puissance créatrice des colonies. Ces habitants honorent cet état de nouvelle européanité qui leur a été attribué de manière ascriptive en respectant l'habitude obstinée de rester pour une moitié d'entre eux à l'écart des élections au Parlement européen. Seuls les Belges et les Luxembourgeois votent à ces élections avec autant de zèle que s'ils agissaient du scrutin national. Et bien que les citoyens de cette nouvelle construction, dès lors qu'ils sont comme nombre de cette grande entité difficile à comprendre, en grande majorité du côté des gagnants, un très grand nombre d'entre eux a encore du mal à habiller cette abstraction avec les sentiments qu'on porterait à une patrie vécue. Et cela reflète le fait que l'Europe post-impériale, qui était apparue depuis les années 50, fut d'emblée le projet d'élites inquiètes et plein d'espoir. Elles ne voulaient pas se laisser perturber dans leur foi que les majorités suivraient dès que les avantages du nouveau modus vivendi deviendraient généralement visibles. On est forcé de craindre que Dostoïevski ait réussi à définir dans une intuition soudaine l'homme contemporain de ce continent sous l'optique du christianisme orthodoxe lorsqu'il publia dans ses carnets du sous-sol cette cruelle nouvelle de 1864 qui catapulta le ressentiment sur la scène de la littérature mondiale lorsqu'il faisait dire à son protagoniste que l'homme est d'une créature bipède et ingrate. Et l'Européen moyen de notre temps, qui vit dans la colère, pas toujours injustifiée, que lui inspire la marche souvent opaque et presque extraterrestre des affaires à Bruxelles et à Strasbourg, sans réfléchir aux prémices de son existence, l'Européen moyen est l'incarnation de l'ingratitude pour autant qu'elle signifie se laisser porter par la dérive des situations quasi post-historiques sans savoir a fortiori et sans vouloir savoir de quelle source est sorti le modus vivendi contemporain. L'Européen d'aujourd'hui est trop souvent le consommateur final d'un confort dont il n'a plus la moindre idée des conditions d'existence. Dans son existence perforée par des failles du souvenir, la phrase de Stephen Dedalus est devenue réalité. L'histoire et le cauchemar dont j'essaie de m'éveiller. Et nous allons tenter, au cours des séances suivantes, de prendre un peu à la gorge cet esprit de l'ingratitude. Nous partirons pour se faire de l'hypothèse que l'ingratitude n'est qu'un synonyme d'un manque de culture et un symptôme curable du dit. Et nous définissons ici l'Europe comme un livre trop peu lu par ceux qu'elle concerne et que ceux qui la haïssent feuillettent en pratiquant une lecture unilatérale. Et les chapitres qui suivent doivent être compris comme des marque-pages dans un ouvrage dont l'épaisseur est presque décourageante, Izzy souligne quelques passages en priant un public souvent distrait d'accorder une minute d'attention aux pages marquées. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.